Nous allons tout d'abord faire une première lecture dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 2, les versets 1 à 5. Il me dit, « Toi, fils d'Adam, mets-toi debout, j'ai à te parler. » Pendant qu'il me disait cela, l'Esprit de Dieu me pénétra et me fit tenir debout. J'écoutais donc celui qui me parlait. « Fils d'Adam, dit-il, je t'envoie auprès des Israélites, cette bande de rebelles qui se sont révoltés contre moi. Tout comme leurs ancêtres, ils n'ont jamais cessé de rejeter mon autorité jusqu'à présent. C'est vers ces gens à la tête dure et au caractère obstiné que je t'envoie. Tu t'adresseras à eux en disant « Voici, voici ce que déclare le Seigneur Dieu. » Alors ils t'écouteront, et qu'ils t'écoutent ou qu'ils refusent de le faire parce qu'ils sont des gens rebelles, ils sauront qu'il y a un prophète parmi eux. Puis nous écoutons une deuxième lecture dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 6, deux textes qui nous sont proposés pour aujourd'hui. Marc 6, si vous voulez suivre en même temps dans la Bible, les versets 1 à 6.
Jésus quitta cet endroit et se rendit dans son pays. Ses disciples le suivaient. Le jour du Shabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Impressionné, de nombreux auditeurs disaient « D'où lui vient cela ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment ces miracles se réalise-t-il par ses mains ? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Ses sœurs ne vivent-elles pas ici parmi nous ? Cela les empêchait de croire en lui. Et Jésus leur disait, un prophète n'est méprisé que dans son pays, dans sa parenté et dans sa maison. Et s'il ne pouvait faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il posa les mains sur quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur manque de foi. Jésus parcourut tous les villages des environs et enseignait.
Il y a un point commun entre les deux textes que nous venons d'entendre. Quelque chose est dit, mais on ne sait pas quoi. Le détail de l'enseignement qui est donné n'est pas détaillé dans le texte. Il se dit bien quelque chose, mais on ne sait pas quoi, comme si ça n'avait pas beaucoup d'importance pour nous de le savoir, ni dans Ézéchiel, ni dans Marc. Parce que l'important, c'est que ce qui devait être dit a bien été dit, et que ça a produit un certain effet, et que l'on sait qu'au milieu de nous, quelqu'un parle. C'est vrai dans Ézéchiel, où c'est dit explicitement, mais c'est vrai aussi dans les versets de Marc que nous venons d'entendre. Pour ce qui concerne le texte de Marc, ce qui frappe, c'est l'aveu d'échec. On n'est pas prophète en son pays, et puis c'est tout. C'est un peu la morale de l'histoire. La lecture plusieurs fois répétée des mêmes versets ne change rien à ce constat, le courant ne passe pas. Entre Jésus et ses auditeurs, qui disent seulement et vaguement le connaître de vue. Mais en retournant le texte dans tous les sens, et on aurait pu le faire aussi avec celui d'Ézéchiel, on ne comprend pas le motif, ou pas tout de suite le motif du rejet. Rien n'est dit sur le petit mot, la phrase éventuellement, ou le paragraphe qui aurait fait problème et qui aurait pu choquer, parce qu'on ne sait pas ce que Jésus a enseigné ce jour-là. Il y a donc une fin de non-recevoir, et qui répond à ce qui est perçu comme une prétention ou une usurpation pas tout à fait identifiée, un peu floue encore, et qui, on le sait, plus tard, basculera bientôt dans l'accusation de blasphème. L'accusation de blasphème, c'est ce qu'on sort en dernier recours quand on n'a pas compris le fond du message. Mais tout se ramène à la question, d'où parle-t-il celui-là ? Pour qui se prend-il ? La fin tragique de Jésus sera une forme de réponse expéditive et violente des responsables religieux de l'époque, avec la complicité des autorités politiques qui ne comprennent généralement rien à ces questions. Le fond du problème est donc bien que, plus qu'un enseignement précis qui aurait posé problème, on aurait aimé entendre autre chose, hein, il ne s'agit pas de ça, plus qu'un enseignement précis, c'est le lien étroit que Jésus ici semble avoir avec Dieu, ou qu'il prétendrait avoir avec Dieu, et qui semble déjà contesté ici au tout début de son ministère. Il nous vient en tête tous les titres dont on apparaît Jésus de son vivant et aussi plus tard. La plupart du temps, sans lui demander son avis d'ailleurs, Rabbi, Maître, Messie, Christ, Fils de l'homme, Fils de Dieu, et j'en passe. Les contemporains de Jésus ont eu du mal, beaucoup de mal, à accepter le fait qu'il était avant tout un homme qui avait tellement compris l'esprit même des Écritures, qu'il pouvait affirmer être proche de Dieu comme personne n'avait pu ou su l'être avant lui. Mais cette affirmation ne coule pas de source pour les auditeurs de Jésus ce jour-là, elle ne coule pas de source pour nous non plus. Habitués que nous sommes du sens convenu de tous ces titres dont j'ai donné une liste non exhaustive, alors qu'il faudrait, nous le savons, constamment en reformuler le sens. Se pourrait-il que le rejet dont Marc nous parle ce matin vienne du fait que les auditeurs de Jésus avaient peut-être bien compris que Jésus s'était rendu si proche de Dieu qu'on pouvait l'identifier à lui, ou presque. Et s'ils l'avaient compris, que cette nouveauté était tellement bouleversante, tellement dérangeante, que le premier réflexe était peut-être de la balayer d'un revers de main, allez savoir. Même si nous avons perdu le souvenir de ce long processus, c'est bien ce que les évangélistes, ici Marc, ont consigné dans leur témoignage. Il a fallu un bon moment aux contemporains de Jésus pour le comprendre, et d'une certaine manière, il nous faudra à nous aussi toujours un certain temps, un bon moment, pour comprendre ce que veut dire avoir du divin en soi. En avoir tellement que ça s'entend, ça se voit et ça se remarque. C'est peut-être cela, être chrétien, essayer de répondre à la question que Jésus pose à ses disciples ailleurs dans un autre texte. « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» C'est toujours un peu la même question. Elle est adressée à chacun, chacune, cette question, pas à une institution chargée de collectionner les réponses possibles ou acceptables, et chargée également de nous les distribuer au compte-gouttes en cas de besoin. C'est chacun, chacune, qui doit répondre encore et encore à cette question. Il faut travailler un peu pour obtenir sa propre réponse, et en plus elle est provisoire, parce qu'il faudra un jour tout recommencer. Mais c'est ce qui fait l'intérêt d'une bonne question, n'est-ce pas? Si Jésus est mal accueilli dans son village natal, c'est parce que la nouveauté qu'il représente est déjà perçue, confusément, mais perçue quand même, mais mal comprise. Déranger l'image qu'on se fait de Dieu, c'est forcément un début de blasphème, puisque cette image est en danger. On cherche à la protéger, et si elle est en danger de mort, on crie au crime de lèse-majesté ou au blasphème. Mais une fois que cette image se craquelle, elle est prête à tomber. Il y a toujours de l'iconoclasme dans l'annonce de l'Évangile. Faire tomber une image fausse, obsolète, ou dépréciative de Dieu, c'est toujours une bonne nouvelle, pour Dieu comme pour nous. En fin de compte, nous nous comprenons un peu mieux. Quand l'image de Dieu est plus nette, nous nous voyons mieux également. La nouveauté du discours de Jésus, nous ne la connaissons qu'à travers son impact, et pas à travers son ou à partir de son contenu. Mais la réaction de l'auditoire est suffisante pour déduire que Jésus manifeste par ses paroles et ses gestes une proximité inédite, inouïe, jusqu'à ce jour, avec la puissance de Dieu. Ce qui pose un problème ce jour-là, c'est qu'il est difficile pour ses auditeurs d'articuler l'extraordinaire qu'il est devenu avec l'ordinaire de ce qu'on sait déjà de lui, et qui porte surtout sur ses origines. Ce qu'il est aujourd'hui, pour nous, est bien le plus important. C'est dans l'aujourd'hui, dans le tout de suite, là maintenant, qu'il nous adresse une parole qui redresse, qui sauve. Mais nous l'enfermons dans un CV un peu maigre et rarement remis à jour. Pourtant, Ce que Jésus essaie d'expliquer à cet auditoire surpris, c'est que la rencontre entre la puissance de Dieu et nous-mêmes a bien lieu. Elle a lieu dans l'ordinaire de la vie, dans l'écoulement des journées. Cette rencontre tant attendue a bien lieu à travers sa propre personne pour tous ceux qui entendent la parole qu'il prononce et qui mesurent tout l'impact qu'elle peut avoir pour eux, qui le mesurent sur le moment ou qui l'envisagent parce qu'il leur faudra un certain temps pour la mettre en pratique. Ceux-là reçoivent une bonne nouvelle sous une forme particulière, elle leur parviendra un autre jour sous une autre forme et ainsi de suite. Les églises chrétiennes de tous les temps et de tous les lieux se sont bien sûr emparées de ces questions en essayant à peu près toutes les possibilités. Vous imaginez bien que tout a été essayé et déjà écrit. Nous avons débarrassé Jésus de sa divinité pour le rendre plus proche de nous. Ça, c'était une des grandes tentatives de la théologie. Le récupérer, en quelque sorte, le ramener vers nous, le mettre dans notre camp. Ce faisant, nous avons exprimé quelque chose qui pointe souvent chez nous notre besoin d'autonomie, d'indépendance même, par crainte de voir notre territoire envahi par un Dieu que nous préférons peut-être savoir loin. Mais d'un autre côté, nous l'avons aussi parfois, à l'autre côté, et puis il y a toutes les nuances entre les deux bien sûr, nous l'avons aussi surdivinisé au point de le rendre totalement inaccessible. Loin de rejoindre notre camp, il nous tournait plutôt le dos pour nous laisser seuls sur le plancher des vaches. Entre la peur d'être envahi et le sentiment d'abandon, la rencontre n'avait pas lieu, ou en tout cas pas dans de bonnes conditions. La raison principale qui rend cette rencontre périlleuse à nos yeux, c'est le miroir implacable que nous tend un Dieu qui se manifeste. Nous nous voyons tels que nous sommes dans ce miroir et cette image ne nous plaît pas. Elle nous renvoie à tout ce que nous voulons cacher ou oublier de nous-mêmes. En somme, Jésus propose une autre image de Dieu pour que nous puissions enfin accéder à la nôtre, nous regarder en face une bonne fois. Pas étonnant que l'exercice nous paraisse rebutant. Lorsqu'il s'agit des autres, c'est plus facile. L'affirmation de la puissance, de la justice, voire de la colère de Dieu ne nous dérange pas, ou elle nous dérange moins parce que ce n'est pas nous qui risquons de prendre des coups de trique. C'est confortable l'affirmation d'un Dieu costaud, un redresseur de tort qui tient ses comptes à jour, quand ce n'est pas à nous de payer l'addition. Décidément, le plus difficile pour nous, c'est bien d'admettre que Dieu se mélange à l'homme au point de lui tendre un miroir montrant une image déformée ou brisée, mais jamais sans l'évangile, c'est-à-dire sans la bonne nouvelle, ce message qui dit que nous trouvons dans ce miroir aussi la promesse que cette image peut être reconstituée, qu'elle n'est pas destinée à rester pour toujours déformée ou abîmée. Jésus a sans doute tenu, dans tout le reste de son enseignement, à rappeler que nous ne réparerons pas cette image tout seul. Ni en essayant de nous élever jusqu'au ciel comme dans la tour de Babel, ni en nous contentant d'un loin des yeux, loin du cœur, où nous tuons tout espoir de réparer cette image, faute d'y parvenir nous-mêmes. Dans ce texte, l'une des expressions importantes, entre autres bien sûr, c'est la fameuse occasion de chute, le scandale. C'est bien à cela que renvoie cette expression, parce qu'il est difficile pour nous d'admettre que Dieu s'approche pour nous mettre sur la voie de cette réparation d'un miroir cassé, une réparation longue, difficile, ça prend du temps, mais toujours possible. Et ça, c'est constamment promis. Au moment où nous accueillons Clément aujourd'hui, le jour de sa confirmation, ce texte vient aussi confirmer quelque chose pour nous, la nécessité de nous rappeler que la vie placée sous le signe de la foi chrétienne est un voyage assez long, ponctué d'étapes comme celle d'aujourd'hui, mais qui ne s'arrête pas parce qu'il y a une étape, il continue bien sûr, et que la vie placée sous la foi chrétienne est un voyage à la recherche d'une image de nous-mêmes, enfin réparée, restaurée à la lumière de l'enseignement de Jésus à ses disciples. Au début des années de caté, chacun est en quelque sorte mis sur la voie, propulsé sur quelque chose qui va se dérouler petit à petit. Le voyage commence. Il continue aujourd'hui pour Clément comme pour nous, Et c'est tout à fait certain, même si nous ne lisons pas l'avenir, il sera rempli d'invitations et de possibilités de rencontres, comme celles que nous lisons aujourd'hui sous la plume de Marc. Les auditeurs de Jésus ne sont pas tous venus au rendez-vous ce jour-là, mais la rencontre a peut-être eu lieu un autre jour, allez savoir. Amen.